Et que c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Jérôme Cahuzac espère échapper à la prison. Son procès en appel s'est ouvert aujourd'hui. En première instance, l'ancien ministre du budget avait été condamné à 3 ans ferme pour fraude fiscale et blanchiment. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de travailleurs détachés en France, le gouvernement renforce les mesures contre les fraudes au détachement. Cela passe par des sanctions financières renforcées et aussi par la publication systématique des condamnations pénales pour travail illégal. L'armée turque essuie de lourdes pertes dans le nord-ouest de la Syrie. Depuis le début de l'opération Rameau d'Olivier, 31 soldats turcs ont été tués, ainsi que 165 combattants arabes syriens armés par Ankara. Enfin, dans ce journal, reportage dans la plus grande galerie à ciel ouvert de Mexico. Dans le pays berceau du muralisme, incarné notamment par Diego Rivera, les promoteurs de l'art urbain espèrent améliorer la vie des habitants. Jérôme Cahuzac a peur d'aller en prison. Le procès en appel de l'ancien ministre du budget de Jean-Marc Ayrault s'est ouvert à Paris à la mi-journée. En première instance, en 2016, Jérôme Cahuzac a été condamné à 3 ans de prison ferme non aménageable pour avoir dissimulé des comptes bancaires à l'étranger. Il ne conteste pas les faits, mais il espère voir sa peine réduite. Antoine Maret, vous avez suivi cette première audience.
Une première audience pendant laquelle le président du tribunal s'est contenté de synthétiser les faits. 3 quarts d'heure nécessaires tout de même pour retracer le scandale Cahuzac. Pendant 20 ans, son ex-femme et lui-même auraient dissimulé un patrimoine supérieur à 3,5 millions d'euros. D'abord en Suisse en 92, puis en 98 à Singapour par peur d'être découvert. Jérôme Cahuzac est également poursuivi pour des opérations de blanchiment liées, selon son propre aveu, à son incapacité à renoncer à un certain train de vie. L'ex-femme de Jérôme Cahuzac a été condamnée à 2 ans de prison ferme, peine aménageable pour éviter la prison. Elle a décidé de ne pas faire appel. Contrairement à Jérôme Cahuzac, lui condamné à 3 ans de prison ferme en première instance, le président de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris avait estimé que seule une peine garantissant son incarcération pouvait sanctionner une faute, je cite, « d'une exceptionnelle gravité ». Si l'ancien ministre du budget fait appel, ça n'est pas pour remettre en cause le fond du dossier. Il a expliqué cet après-midi à la barre d'une voix à peine audible « je reconnais les faits ». S'il fait appel, c'est qu'il conteste la peine qui lui a été infligée. « J'ai peur d'aller en prison, je ne souhaite pas que mes enfants aillent me voir en prison. C'est un sentiment assez banal », a-t-il conclu avant d'aller se rasseoir. 3 ans de prison ferme ne permettent effectivement pas d'aménagement de peine, mais en faisant appel, Jérôme Cahuzac risque gros, jusqu'à 7 ans de détention.
Antoine Maret, le tribunal de grande instance de Paris déboute le syndicat des avocats de France qui avait assigné la ministre de la Justice pour faute lourde. Les avocats critiquent les box vitrées de plus en plus nombreux dans les salles d'audience. Ils considèrent ce dispositif destiné à prévenir évasion et violence comme une atteinte à la présomption d'innocence, au droit de la défense et à la dignité humaine. Mais pour le TGI, il n'a pas été démontré que les box sécurisées n'avaient pas permis de juger correctement. Apple veut interdire aux militants d'attaque d'entrer dans ses magasins. Le géant américain a assigné l'association altermondialiste Attaque auprès du tribunal de grande instance de Paris suite à une série d'actions menées par Attaque à Paris et à Aix-en-Provence. Mais avant l'audience, les soutiens de l'ONG se sont rassemblés et vous les avez rencontrés devant le tribunal, Delphine Marianboule.
Devant le tribunal, ambiance guerre des étoiles, déguisement, musique. Aurélie Trouvé est l'une des porte-parole d'Attaque.
C'est l'empire Apple contre Attaque. Ils voudraient nous réclamer 150 000 euros en cas de future action contre Apple. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les procédures Bayon qui existent aussi contre d'autres ONG, contre d'autres lanceurs d'alerte. Le but pour Apple, c'est qu'on connaisse le moins possible leur pratique massive d'évasion fiscale. C'est la première fois qu'ils agissent comme ça contre une ONG. Ça prouve aussi qu'on a visé juste.
Aux côtés de l'association, plusieurs élus comme Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Aujourd'hui, les vandales, c'est Apple. C'est eux qui doivent 13 milliards d'euros et qui n'ont pas payé un centime au niveau de l'Union européenne. Aux États-Unis, ils payent 35% d'impôts. En Union européenne, 0,05%. Il faut peut-être s'interroger pourquoi.
Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, défend le droit des lanceurs d'alerte.
Et donc, il faut absolument que la justice prenne conscience qu'on ne peut pas condamner a priori en avance les associations, les lanceurs d'alerte qui, encore une fois, mettent ce sujet sur le devant de la scène. Il est donc scandaleux que ce soit la société civile qui passe devant les tribunaux et non pas les coupables de l'évasion fiscale.
Et Attaque, l'association altermondialiste, sera fixée sur son sort le 23 février prochain.
La justice se prononcera sur l'assignation déposée par Apple le 23 février. Le droit à l'erreur, ça n'est pas pour la fraude, prévient Muriel Pénicaud. Alors que l'an dernier, hors secteur du transport, un peu plus de 516 000 salariés détachés ont été enregistrés légalement en France, soit 46% de plus que l'année précédente. La ministre du Travail annonce 16 mesures anti-fraude en complément des mesures déjà prises sous le quinquennat Hollande d'Annabelle Grelier.
Oui, les sanctions financières passeront de 2 000 à 3 000 euros par salarié détaché illégalement et de 4 000 à 6 000 euros en cas de récidive. Et si un prestataire étranger ne s'acquitte pas de l'amende, sa prestation de service pourra être suspendue. Le gouvernement mise également sur le « name and shame », c'est-à-dire nommer publiquement les entreprises qui fraudent. Autre volet répressif, le renforcement des pouvoirs de sanction des préfets. Ils pourront fermer un établissement ou ordonner l'activité d'une entreprise, grâce évidemment au signalement des inspecteurs du travail dont les contrôles vont s'intensifier. La ministre leur a fixé un objectif de 1500 contrôles par mois, de quoi interloquer la CGT de l'inspection du travail. Simon Picot.
C'est un exercice d'hypocrisie assez cynique, puisque Madame Pénicaud donc annonce un renforcement des contrôles menés par l'inspection du travail, un durcissement des amendes administratives, alors qu'elle est en train de conduire le plus grand plan de suppression de postes qui ait jamais eu lieu au ministère du Travail. D'ici quelques semaines, quelques mois, c'est presque 10% des sections d'inspection en Ile-de-France qui devraient être supprimées. Donc nous annoncer dans le même temps qu'on va augmenter de près d'une fois et demie, je crois, puisqu'il serait question de passer de 1000 à 1500 contrôles sur le détachement, c'est clairement impossible. Mais donc voilà, manque de moyens au niveau des services de contrôle, mais puis aussi au niveau des services qui instruisent notamment les dossiers de sanctions administratives. En Ile-de-France, par exemple, là on est à des délais d'instruction qui dépassent les 18 mois. L'amende administrative, c'est un type de sanction qui a été introduit ces dernières années, en nous présentant ça comme quelque chose de plus efficace que la justice pénale, qui elle est trop lente, qui classe trop souvent les procédures, mais en fait on retombe sur le même type de souci, quoi. C'est qu'il n'y a pas d'effectivité de la sanction parce que le circuit et les moyens ne suffisent pas, quoi.
Par ailleurs, la ministre a également annoncé la création d'un service national d'enquête au sein du réseau URSSAF pour traiter les fraudes complexes, là encore dans un contexte de suppression de postes.
Annabelle Grelier, comment améliorer le niveau en maths des élèves français? Le mathématicien et député La République En Marche, Cédric Villani, et Charles Taurossian, inspecteur général de l'éducation nationale, se sont penchés sur la question à la demande du ministre de l'Éducation. Leur rapport met en évidence le besoin de formation des enseignants. Il faut les accompagner, explique-t-il, et leur fournir des outils. Et pour faire aimer une matière trop souvent perçue comme austère, Cédric Villani plaide pour des méthodes s'appuyant sur le plaisir du jeu et sur l'expérimentation. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Les auteurs citent en exemple plusieurs méthodes qui ont fait leurs preuves à l'étranger. Celle de Singapour est fréquemment citée.
Il faut dire que dès le lancement de la mission en octobre dernier, Jean-Michel Blanquer en résumait ainsi l'esprit, faire une méthode de Singapour à la française. Une référence au Primary Mathematics Project lancé dans les années 80 à Singapour et 15 ans plus tard, le pays se retrouve en tête de classements internationaux, dont le fameux PISA. Alors, ce qu'on désigne par méthode de Singapour ne se limite pas à des outils pédagogiques pour les enseignants. Dans le pays, a été mis en place un vaste programme de valorisation des mathématiques, incluant une importante formation des professionnels, des évaluations ou encore des équipes de soutien aux enseignants. Le rapport souligne que la méthode repose sur trois piliers, des facteurs socioculturels et politiques, l'organisation et la qualité de la formation et enfin le rôle des familles. La méthode est-elle transférable en France ? Pas totalement, reconnaissent les auteurs, mais ils préconisent de s'en inspirer pour retenir quelques principes, comme guider l'élève dans son apprentissage, de manière, je cite, explicite mais non dirigiste, passer par le concret et la manipulation, introduire dès le CP les quatre opérations, additionner, multiplier, etc., ou encore encourager la verbalisation, méthode inspirée aussi d'auteurs comme Piaget ou Montessori. En France, environ 1500 enseignants appliquent d'ores et déjà une pédagogie qu'un éditeur commercialise sous le nom de méthode de Singapour. Le rapport en propose d'ailleurs une évaluation. Rappelons néanmoins qu'à Singapour, il y a non seulement un contexte culturel différent, mais aussi un accompagnement général, par exemple la formation initiale et continue des enseignants est de 400 heures, bien loin de ce qui se passe en France, lacune d'ailleurs soulignée par le rapport.
Et sur franceculture.fr, on peut retrouver un retour historique intitulé « Comment les petits Français sont devenus nuls en maths ». Alors que le gouvernement et les associations se renvoient la balle au sujet du nombre de sans-abri sans solution d'hébergement, une femme de 52 ans a été retrouvée morte la nuit dernière dans une rue du 9e arrondissement de Paris. Selon les chiffres officiels, plus de 5400 femmes vivent dans les rues de la capitale, rappelle Christine Lacombe, directrice du SAMU social de Paris, qui a lancé en novembre dernier une campagne pour sensibiliser sur les femmes dans la rue.
C'est le grand paradoxe de la réponse de l'urgence sociale, c'est que c'est une réponse qui s'accroît objectivement en nombre. Oui, il y a de plus en plus de places d'hébergement. Et pourtant, on répond de plus en plus mal à la demande de mise à l'abri. Parce que cette offre d'hébergement, historiquement, elle a été conçue pour ce qu'était la population sans-abri il y a 20-30 ans. Dehors, on ne voyait que des hommes seuls, plutôt 40-50 ans. On ne voyait pas de famille, on ne voyait pas de jeunes, on ne voyait pas de femmes. Nous, au SAMU Social de Paris, on a choisi de lancer une campagne de communication, de sensibilisation, d'appel à la solidarité pour ces femmes sans-abri. Alors, on l'a lancée à l'automne dernier. C'est une campagne qui s'appelle « La rue avec elle ». Oui, il faut parler d'elle. Alors, bon, prendre un décès pour parler des femmes à la rue, c'est absolument terrible et terrifiant. Mais on a besoin de parler de ces femmes parce qu'elles sont plus nombreuses, parce qu'elles sont aussi beaucoup plus transparentes. Ces femmes, la plupart du temps, elles se cachent. Et donc, on n'a pas l'impression qu'il y a toutes ces femmes sans-abri. Elles peuvent passer la nuit à prendre le Noctilien pour éviter de se faire agresser. Donc, il y a une vraie invisibilité qui est une invisibilité qu'elles se construisent pour ne pas être agressées et qui est malheureusement une invisibilité qui peut créer une forme d'inaction.
Christine Lacombe du SAMU Social de Paris, jointe par Cécile de Kervas-Douy. L'opération Rameau d'Olivier à la peine. Ankara a lancé le 20 janvier cette opération militaire aérienne et terrestre contre les combattants kurdes qui tiennent la région d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie. Mais les Kurdes syriens reçoivent le soutien indirect et inattendu des forces de Bachar el-Assad et l'armée turque essuie des pertes importantes, Eric Biegala.
Oui Aurélie, pour une fois, il ne s'agissait pas cet après-midi d'un communiqué de victoire, comme il en tombe pratiquement tous les jours, ou d'un bilan faisant état de centaines de victimes chez l'adversaire kurde. Cette fois-ci, l'état-major turc a admis cet après-midi que depuis le début de l'opération lancée sur la poche d'Afrin le 20 janvier dernier, soit depuis trois semaines, ces troupes, qui ne sont pourtant pas en première ligne, comptent 31 morts et 143 blessés dans leurs rangs. Et encore aucune mention n'est faite des pertes dans les rangs des brigades syriennes qui, elles, constituent le fer de lance de cette offensive pilotée par Ankara. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, là, les pertes atteindraient 195 tués. En fait, l'opération Rameau d'Olivier, c'est ainsi qu'Ankara a bizarrement baptisé son offensive, l'opération Rameau d'Olivier semble bel et bien patiner, mis à part quelques têtes de pont lancées et tenues par les forces pro-turques sur quelques milliers de mètres au nord, à l'ouest et au sud-ouest de l'enclave. Les assaillants n'ont que très très peu progressé. Les Turcs ont par ailleurs perdu dans la bataille au moins un char lourd, un hélicoptère d'attaque, trois ou quatre blindés transports de troupes et un drone cet après-midi. À vrai dire, les Kurdes ont reçu le renfort de plusieurs centaines de leurs combattants venus du quartier de Sheikh Maksoud à Alep et peut-être même de plus loin, des renforts qui ont obligatoirement transité par les territoires contrôlés par le régime de Damas et ses alliés, qui donc les aident au moins indirectement. Ils ont surtout manifestement touché de l'armement lourd, notamment des missiles anti-chars qui ont fait des ravages dans le camp turc. Ankara est d'ailleurs en train de convoyer des dizaines de nouveaux blindés en direction de la frontière syrienne et risque de devoir engager sa propre infanterie dans les combats d'Afrin si la Turquie entend effectivement réduire l'enclave kurde.
Eric Biegala. L'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili, impliqué dans la politique ukrainienne depuis la révolution de 2014, a été arrêté à Kiev et expulsé vers la Pologne. L'opposant se trouvait illégalement sur le territoire ukrainien, expliquent les autorités. Ses partisans, eux, promettent de continuer de se battre contre le président Petro Poroshenko, taxé de corruption et d'autoritarisme. Les précisions de Sébastien Gobert à Kiev.
Une dizaine d'hommes en uniforme, cagoulés et armés, font irruption dans le restaurant et plaquent Mikhail Saakashvili au sol. Des cris, des bousculades et ils le traînent à l'extérieur. Cette vidéo, c'est la dernière apparition du Géorgien. Ses partisans passent ensuite l'après-midi à le chercher à travers la capitale ukrainienne, sur les routes d'accès et dans les deux aéroports internationaux de Kiev. Jusqu'à ce que les gardes frontières confirment son expulsion vers la Pologne. Pourquoi la Pologne ? Pour qu'il y soit réadmis après avoir traversé la frontière entre les deux pays illégalement en septembre 2017. Mikhail Saakashvili n'y sera vraisemblablement pas emprisonné, mais cela pourrait suffire à l'écarter de la vie politique ukrainienne. Il dérangeait ouvertement le président Petro Poroshenko et ses alliés. Ils avaient tenté à plusieurs reprises de l'arrêter et avaient multiplié les accusations, plus ou moins fondées, contre lui. Mikhail Saakashvili promettait une nouvelle révolution et une sérieuse lutte contre l'oligarchie et la corruption. Il n'avait néanmoins pas réussi à gagner l'opinion publique à sa cause. Beaucoup le perçoivent comme un aventurier populiste. Ses partisans appellent à une série de manifestations devant l'administration présidentielle pour continuer la lutte. Mais il semble bien qu'eux et leur chef Mikhail Saakashvili ont perdu cette bataille et peut-être la guerre.
Le mouvement de médecins dits résidents ne faiblit pas en Algérie. Ces médecins en formation de subspécialisation sont en grève depuis 3 mois. Ils étaient près d'un millier à la mi-journée rassemblés dans le centre d'Alger, bravant l'interdiction de manifester, Laïla Barato.
Les forces anti-émeutes de la police ont tenté de contenir la manifestation, mais elles n'ont pas réussi. Plusieurs centaines de médecins résidents se sont réunis place de la Grande Poste, au centre de la capitale. Une partie d'entre eux a ensuite défilé jusqu'au Parlement. Ces futurs médecins spécialistes sont en grève depuis la mi-novembre. En cause principalement le service civil, une période obligatoire de 1 à 4 ans, au cours de laquelle ils sont envoyés dans des zones du pays où il manque des médecins. Problème selon eux, ces affectations ne sont pas accompagnées de bonnes conditions de travail. Certains n'ont pas de logement, d'autres n'ont pas le matériel nécessaire pour travailler, d'autres encore se retrouvent seuls, sans personnel médical et paramédical nécessaire pour soigner les patients. Des négociations ont bien commencé fin janvier avec le ministère de la Santé, mais elles sont insatisfaisantes pour les grévistes qui dénoncent le fait que la cellule de crise interministérielle n'ait pas le pouvoir de prendre des décisions. En parallèle des négociations, la justice a déclaré la grève illégale et l'administration a commencé à faire des retenues sur salaire. Pourtant, en réussissant à manifester dans la capitale, les médecins résidents ont montré qu'ils comptaient maintenir la pression. En fin d'après-midi, le président du Parlement annonçait qu'il allait organiser une médiation entre les médecins et le gouvernement.
Laïla Berhato, à Alger. La directrice adjointe d'Oxfam démissionne. L'ONG britannique est ébranlée par des révélations visant des responsables de l'organisation caritative en Haïti. Selon une enquête du Times, des groupes de jeunes prostituées étaient invités dans des maisons et hôtels payés par Oxfam en Haïti. Penny Lawrence reconnaît que l'ONG n'a pas répondu à ces comportements inappropriés de manière adéquate et elle en assume la responsabilité. Le street art se répand dans les villes d'Amérique latine. Cet art urbain connaît une rapide expansion, notamment à Mexico, où certains le raccrochent à un renouveau du muralisme, mouvement artistique qui avait émergé au début du XXe siècle, avec comme plus célèbre représentant Diego Rivera. Les peintres muralistes déployaient dans leurs fresques monumentales les messages révolutionnaires de l'époque, et de nombreuses façades de bâtiments publics témoignent aujourd'hui de la richesse de ce patrimoine à Mexico. Aujourd'hui, le street art tente de s'inscrire dans cette idée d'art public accessible à tous et le Central de Abasto de Mexico, le plus grand marché du monde, se couvre progressivement de peintures murales. Le reportage d'Emmanuel Stills.
La Central de Abasto est le plus grand marché de vente en gros au monde. Plus de 300 000 commerçants de Mexico y viennent chaque jour s'approvisionner en fruits, légumes, viande, poissons et fleurs. Mais cette ville dans la ville est aussi une plaque tournante de trafic divers et d'activités criminelles. Alors pour embellir son image, la Central de Abasto a commandé à des artistes des peintures murales pour les façades de tous ses hangars. Pour le moment, il y en a 32. Cela en fait la plus grande galerie à ciel ouvert de Mexico. Sergio Palacios, le directeur du marché, parle de ce projet baptisé Central de Muros.
Ce marché fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tous les jours, chaque Mexicain consomme au moins un aliment qui est passé par la centrale de Abasto. Pourtant, l'endroit n'avait pas une bonne image. La plupart des gens pensaient que c'était trop dangereux d'y aller et trop compliqué. Maintenant, on commence à parler des peintures murales de la centrale de Abasto. Nous voulons que les gens viennent ici et qu'ils sachent qu'au-delà des quartiers branchés de la capitale où les projets artistiques sont généralement concentrés, il y a aussi des choses qui se passent ici.
Le projet Central de Muros ne s'attaque pas seulement aux murs de ce marché incommensurable. Il a aussi pour but d'emplir toutes les villes du Mexique de peinture murale. D'après sa directrice, Itze González, le projet s'inscrit dans la lignée du muralisme mexicain qu'il faudrait considérer comme l'ancêtre du street art actuel. Mais si le muralisme avait un but éducatif, elle est convaincue que les peintures murales d'aujourd'hui peuvent améliorer la vie des habitants.
Nous voulons connecter les gens avec l'art pour provoquer un changement des mentalités. Quand l'espace urbain s'emplit de couleurs, l'état d'esprit des habitants s'anime et cela peut aider à diminuer la violence. Je pense que le Mexique, en tant que berceau du muralisme, devrait récupérer cet art pour soigner la société, la sauvegarder, comme ici, dans un espace qui appartient à tous ses habitants.
Le muralisme du XXe siècle étale ses chefs-d'œuvre sur les murs des ministères, de la cité universitaire et des salles de spectacle de Mexico. Cet art, celui de Diego Rivera, José Clemente Orozco ou David Alfaro Siqueiros, était porteur d'un message révolutionnaire qui ne se retrouve plus dans l'art urbain actuel. Cette version moderne est pourtant très différente du muralisme, est d'ailleurs plus répandue dans d'autres grandes villes latino-américaines comme Bogota. C'est ce qu'explique le Colombien Juan Ricardo Rincón, directeur du festival Arte Diez, qui a pour but de démocratiser l'art.
À Bogota, comme c'est le cas à São Paulo, au Brésil, l'art urbain est devenu une constante, au point de se convertir en patrimoine de la ville. Les murs de la ville ont été mis à profit et utilisés comme des toiles. Il n'y a pas de raison pour que ce phénomène ne se reproduise pas dans la ville de Mexico et la centrale de Abasto en est un exemple.
Suivant l'exemple de Bogota, Mexico exhibe déjà à de nombreux coins de rue son engouement pour l'art urbain post-muraliste.
Emmanuel Stills à Mexico pour France Culture. Demain, une perturbation traversera une grande moitié ouest de la France. L'après-midi, le temps pluvieux neigeux, s'étendra du Nord-Pas-de-Calais aux Pyrénées en passant par la région parisienne. Gelée matinale fréquente, maximale de 2 à 5 degrés, 6 à 9 sur la façade ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.